Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Galade.
Et bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir sur Calade pour une nouvelle émission de Alors on change, notre rendez-vous mensuel à Alternatiba, un rendez-vous consacré au climat et au développement d'alternatives locales.
Calade 100.9.
Et au menu ce soir, un sujet souvent sur la table, sans mauvais jeu de mots, nous allons parler pesticides en France et en Beaujolais plus particulièrement. Alors que vient de se terminer la 18e semaine nationale pour les alternatives aux pesticides, coordonnée par Génération Future, nous sommes au téléphone avec son porte-parole, François Veyrette. Bonsoir François.
Bonsoir.
Et en studio, nous avons ici les deux animateurs de Nous voulons des coquelicots, Val-de-Saône, Beaujolais, Mathieu Chastagnol et Michel Faure. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pourquoi ce thème ce soir dans cette émission sur le dérèglement climatique ? L'usage des pesticides a d'importantes conséquences environnementales, économiques et sanitaires, et c'est aussi un sujet au cœur des questions d'adaptation face au dérèglement climatique. Au-delà de leur responsabilité patente sur la destruction de la biodiversité, les pesticides font aussi partie du maintien d'un système agro-industriel fortement émetteur en gaz à effet de serre. La poursuite de leur usage n'est pas un bon signal, alors que nous devons nous battre et lutter pour chaque dixième de degré. C'est donc avec soulagement que nous avons accueilli il y a quelques semaines la décision de la Cour européenne de justice qui a jugé illégale la dérogation qui autorisait en France l'utilisation des Oh là là, ça va être la soirée de tous ces termes compliqués. L'utilisation de néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière en France. Et messieurs, vous serez là pour me corriger sur ce vocabulaire compliqué. Et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans une question spécifique. Cette interdiction obtenue grâce à l'action des ONG, dont Génération Future avec vous François au téléphone, cette décision s'inscrit dans un nouveau consensus scientifique qui doucement s'établit à propos de l'efficacité de la protection agroécologique des cultures, c'est-à-dire sans pesticides. Dans cette veine, il y a un très récent rapport de l'INRA, qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui énonce clairement que tendre vers une transition agroécologique des systèmes agricoles va nous permettre d'assurer la production et des rendements économiques, à contrario de ce que peuvent dire les détracteurs de ces alternatives. Localement, Génération Future, avec l'appui du mouvement Nous voulons des coquelicots, vient de publier les résultats d'analyse d'air effectuée en 2020 et 2021 et 2022 dans les zones viticoles du Beaujolais ainsi que dans le Bordelais, mais nous allons nous concentrer sur notre territoire, le Beaujolais, pour montrer que ces fameuses zones non traitées, les zones ZNT, ne protègent vraiment pas, ou même pas du tout, les riverains des pesticides de synthèse qui y sont épandus. C'est cela qui nous a porté à mettre tout ça à l'ordre du jour de cette émission. Pour participer à la diffusion de ces résultats dans le Beaujolais, ça nous semble important que tout ce travail soit mis en avant. Au cours de nos échanges, nous aurons l'occasion de nous questionner sur l'usage des pesticides en France, sur la réglementation, sur les tendances d'usage dans notre pays et surtout, et principalement aussi, sur les alternatives qui peuvent exister de plus en plus. On parlera en deuxième partie largement de cette étude avec Mathieu et Michel qui sont là. Comment faire face au puissant système d'agro-business, d'agriculture industrielle? Comment les différents acteurs, les États, la société civile, les associations, les citoyens, les citoyennes peuvent s'emparer de ces questions et peuvent résister au matraquage lobbyiste et publicitaire de l'agro-industrie? C'est notre thème ce soir.
Comme la pluie, comme le soleil, Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture.
Les abeilles
sauf si vous êtes une abeille aveugle, complètement paumée et avec aucun sens de l'orientation, vous ne vous retrouvez pas dans un champ de betteraves.
Les néonicotides. Non, c'est pas ça.
Les abeilles. Par contre, les abeilles peuvent venir prélever une petite sève sucrée sur le bord des feuilles. Le deuxième problème, c'est que le produit reste dans le sol.
Roundup très proche de la nature.
Quelle distance est-ce que vous acceptez, Christiane Lambert ?
Quand vous avez des vignes et que les viticulteurs utilisent des panneaux récupérateurs, eh bien on est capable de dire que même à 1 mètre, ça ne crée pas de difficultés.
Et pourquoi tu touches ?
Les abeilles. J'utilise des produits qui sont homologués. Donc il ne faudrait pas quand même qu'on prenne les agriculteurs pour des pollueurs, alors que la majorité des pollueurs, ce sont les hommes eux-mêmes. Alors à ce moment-là, supprimons les hommes et il n'y aura plus de pollution.
Si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là,
un peu de phyto et ça repart.
J'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois.
Si les Français me font confiance à nouveau, nous lancerons immédiatement un effort massif de purification de l'air dans nos écoles et dans tous les bâtiments publics. Et vous en verrez les premiers résultats avant la fin de cette année. Car oui, cet agenda est un agenda de la qualité de la vie et du mieux vivre.
Et merci à JC pour ce fameux montage qu'on adule et qu'on adore de plus en plus en début de cette émission et qui pose les sujets de manière ironique. On l'a entendu, la question des pesticides est noyautée par un bashing publicitaire, oratoire, c'est édifiant. Avant de nous intéresser à l'enquête menée dans le viticole, dans le vignoble Beaujolais, je voudrais tout d'abord commencer avec vous, François Veyrette, qui est donc porte-parole, je l'ai dit, de Génération Future. Et j'aimerais qu'on dresse ensemble un rapide panorama de la situation actuelle. Alors, disons-le d'emblée, il y a un élément clé qui ressort de toutes les actions de Génération Future, c'est la qualité et la rigueur scientifique que vous mettez à toutes vos études en faisant état de résultats probants et qui contribuent factuellement à la crédibilité sur le combat contre les pesticides. Rappelez-nous en quelques mots l'histoire un petit peu de Génération Future et quelle est un peu votre stratégie pour participer à la déconstruction de l'idée l'indispensabilité de ces pesticides pour nous nourrir tous.
Oui, je vais faire ça rapidement. Génération Future, c'est une association qui a un peu de bouteille maintenant parce qu'on a été créé au début des années 90. Ça a commencé en fait avec la rencontre de quelques personnes, dont moi et d'un ingénieur agronome qui travaillait à l'INRA encore, un Georges Toutain, qui est maintenant malheureusement décédé, mais qui était un des spécialistes mondiaux du palmier dattier, qui a fait toute sa carrière dans le nord de l'Afrique. Lui-même, jeune agronome, avait empoisonné une palmeraie lui-même avec du lindane et qui avait commencé à comprendre que le système de la révolution verte qu'on lui avait vendu avec les pesticides, ça fonctionnait pas bien et qui avait vu les dégâts. Et donc, il a changé après complètement sa façon de travailler pour mettre en place des systèmes agronomiques sans pesticides pendant l'ensemble de sa carrière. Mmh. Et donc, de retour en France, en fin de carrière, je trouve qu'il habitait près de chez moi, on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble et on a toujours travaillé pour essayer de mettre en avant les alternatives aux pesticides, montrer que ça marche. Il y avait même quelques hectares de vergers qui servaient de démonstration pour notre association, donc était formellement créée en 1996 et qui rapidement est devenue une association nationale pour travailler sur les pesticides au départ uniquement, le but étant d'un côté montrer la dangerosité des pesticides à travers une vulgarisation de plus en plus importante des études scientifiques disponibles, et puis en même temps la mise en avant des alternatives, montrer qu'on peut faire autrement, parce que critiquer c'est bien, mais si on ne montre pas qu'on peut faire autrement c'est limité, alors que là on a toujours aussi mis en avant cette affaire des alternatives, et c'est pour ça qu'on a créé la semaine pour les alternatives aux pesticides. Donc maintenant, je ne sais pas, ça doit faire 16 ans, 18 ans.
Ah, je disais 18 ans, ouais.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, wow.
ça tourne.
Voilà, donc on n'a pas encore réussi, tout le monde l'a remarqué, à faire en sorte que l'agriculture française et européenne se débarrasse des pesticides. Au contraire, on est toujours dans un niveau très élevé d'utilisation, mais les choses progressent quand même dans le sens où maintenant tout le monde sait que les pesticides sont dangereux pour l'environnement et la santé, tout le monde, beaucoup d'entre eux, et tout le monde sait aussi maintenant qu'on peut faire autrement. Vous avez cité à juste titre l'étude de l'INRA là, qui est parue il y a quelques semaines, montrant qu'on pouvait passer l'ensemble de l'agriculture européenne dans une agroécologie complète sans pesticides de synthèse. Et ça vient à la suite d'une autre publication, 2018-2019, de l'IDRI, qui est un think tank qui travaille aussi sur les questions agricoles et qui avait mis en évidence à peu près la même chose, qu'on pouvait mettre en place une agroécologie complète, sans pesticides de synthèse sur l'Europe, tout en nourrissant la population et en gardant même quelques capacités d'exportation. Mais en changeant en partie le régime alimentaire, c'est-à-dire que si on passe une agroécologie complète sans pesticides ni engrais de synthèse, il y a des rendements qui seront plus aussi stratosphériques. Donc, pour pouvoir s'y retrouver, il faut diminuer un peu la part des protéines animales, remplacées par des protéines végétales, et donc ça permet d'équilibrer le système de production, de garantir un cycle de l'azote qui fonctionne.
On en a eu une chouette émission le mois dernier que je conseille à nos auditeurs et auditrices de podcaster sur l'alimentation et justement sur ces changements de régime alimentaire qui sont effectivement... c'est systémique le changement et il s'agit pas de toucher seulement à une chose, mais vraiment à modifier beaucoup de nos comportements. Vous avez des relais locaux, Génération Future, en France. Comment vous êtes organisé ?
Alors, on est organisé, alors on a une structure nationale avec une équipe de 5 ou 6 salariés, ça bouge un petit peu selon les années. Mm-hmm. Et puis, on a effectivement une quinzaine de relais locaux, pas partout sur le territoire, on est en train de m'installer, on espère, dans les régions où il n'y en a pas encore. Mm-hmm. Mais il y en a à Lyon, il y en a à Bordeaux, il y en a sur Paris, il y en a... sur Toulouse, etc., etc., dans beaucoup de grandes villes et de régions, pour essayer d'être au plus près des territoires et mm-hmm. pouvoir justement travailler localement sur les problématiques qui sont toutes un petit peu spécifiques, parce que dans le Bordelais, avec la vigne, et dans le Beaujolais, ce n'est pas la même chose que quand on s'intéresse aux grandes problèmes dans la plaine Picarde où moi j'habite, mm-hmm. où il y a aussi beaucoup de pesticides, mais moins de vignes, mm-hmm. beaucoup plus de blé, de patates et de betteraves. Et donc, il faut être capable aussi de travailler sur le terrain pour s'impliquer dans les problématiques locales. À noter qu'on a depuis l'origine étendu un peu nos activités, parce qu'on travaille aussi sur des questions de santé, environnement et de pollution chimique au-delà des pesticides, puisque les problématiques se ressemblent. Par exemple, on travaille depuis 3 ans sur la question des PFAS, ces composés perfluorés. On est pas mal investi dans la région lyonnaise, où on sait qu'il y a une...
Sur la vallée du...
Voilà.
Vallée chimique. Est-ce que vous diriez, donc un de vos rôles, c'est à la fois, vous nous avez dit, de faire de la vulgarisation, donc en fait d'exercer un lobbying positif, j'allais dire, auprès des autorités aussi. Vous avez des contacts réguliers avec un certain nombre de ceux qui décident pour nous ?
Oui, on est effectivement en contact régulier avec... à la fois un certain nombre d'instances, parce que, par exemple, on participe à des groupes de travail au sein de l'Agence de sécurité sanitaire l'ANSES. On est dans un certain nombre de groupes de travail officiels, mais on interpelle aussi directement les élus ou les ministres concernés en tant que de besoin sur nos différents dossiers. Quand, par exemple, il s'agit de demander la mise en place de zones non traitées, mais réellement significatives et protectrices, eh bien, on rencontre, on écrit, on interpelle sur les réseaux sociaux les élus responsables. Et croyez-moi, il y a du travail, parce que mm-hmm. on voit très bien que dans la pratique, ils ont tendance à écouter davantage Madame Lambert, que vous avez citée tout à l'heure, qui va passer la main au niveau de la FNSEA, que ce qu'on peut demander nous aux côtés des associations locales. Et c'est pour ça qu'on essaye, autant que faire se peut, de travailler aussi, en plus de nos groupes locaux, avec des associations locales, des militants locaux, pour pouvoir faire valoir les demandes locales au plus près des réalités de terrain. Et c'était ça qui nous a intéressés dans la collaboration avec nos amis des Coquelicots.
Sur le Beaujolais et dans le
Beaujolais.
Voilà. Et du coup, c'est ce que vous avez, du coup, vous nous avez dit, ça fait, j'irais presque une trentaine d'années que vous êtes en route. Est-ce que vous sentez une évolution des compréhensions des enjeux par le grand public ? Est-ce que schématiquement, il y a quand même eu un moment où les gens comprennent un petit peu mieux ? Enfin, c'est rentré, on a parlé de la betterave, ça fait quand même quelques titres aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une évolution ? Et vous la qualifiez comment, cette évolution ?
Je crois que la bataille de l'opinion publique est gagnée. C'est-à-dire mm-hmm. que Je ne suis pas un naturel, un optimiste complètement délirant, hein. Je suis prudent. Mais je pense que quand même, on peut dire que la bataille de l'opinion publique est gagnée depuis déjà, moi, je pense, une dizaine d'années. C'est le recul qu'on a qui nous permet de dire ça. Je veux dire, il y a 25 ans, quand on faisait une réunion sur les pesticides, on pouvait la faire dans une cabine téléphonique. Il n'y a pas grand monde qui
Maintenant,
était
il n'y a plus de cabine téléphonique, ça tombe.
intéressé. Maintenant, il n'y a plus de cabine téléphonique, mais en plus, on peut remplir une salle des fêtes à peu près partout.
Génial.
Sur le territoire, parce que les gens ont compris, il y a eu beaucoup de publications, de reportages, de presse, fait à la suite de toutes les révélations qui ont été faites ces 20 dernières années. Maintenant, les gens, en gros, savent que les pesticides, c'est bon ni pour l'environnement, ni pour la santé, et qu'on peut faire autrement. Mais il y a donc, paradoxalement, un écart encore plus important entre ce que les gens savent et ce que les politiques mettent en œuvre. Parce que, vous avez cité, les néonicotinoïdes, là, qui finalement vont
Je l'ai moins bien cité que vous, mais
bénéficier.
effectivement.
J'ai beaucoup d'années de pratique, et c'est pour ça. Mais qui ne pourront plus faire l'objet d'une dérogation. Mais on a vu encore ces jours derniers le ministre de l'Agriculture demander à l'Agence de sécurité sanitaire de revenir sur l'interdiction d'un herbicide qui avait pourtant été décidé simplement en appliquant la réglementation européenne et en tenant compte des faits scientifiques, ça veut, sous pression du principal syndicat agricole, de la FNSEA. Ce qui veut dire qu'on a encore des politiques qui sont, il faut quand même le dire, un petit peu à la botte de la FNSEA, qui répondent facilement à ces injonctions et qui ne voient pas que là, dans le cas présent, il s'agit du S-métolachlore, un herbicide dont les métabolites ont quand même pollué les eaux distribuées de 3 millions de Français ces années passées, au-dessus des normes. Donc, on a quelque chose qui, normalement, ne devrait pas se discuter
C'est quelque chose que
entre
vous
deux
avez un
facteurs.
peu, dont vous avez un peu parlé dans votre bouquin avec Fabrice Nicolino, justement, de Nous voulons des coquelicots, sur un livre dont je vraiment recommande. On mettra toutes les en ligne tous les liens, mais qui s'appelle Pesticides, révélations sur un scandale français, donc fait avec Fabrice Nicolino, et vous montrer un petit peu encore les liens, l'historique lourd et la mainmise du syndicat agricole FNSEA majoritaire, qui est soutenu très fortement par la haute administration française et les politiques depuis l'après-guerre. C'est quelque chose dont vous sentez fortement la prégnance aujourd'hui, vous venez de nous le dire. Justement, quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui? Parce que si je vous suis bien et si je suis un petit peu l'actualité, aujourd'hui, on sait bien que la consommation en France est toujours excessive, enfin, est incroyable, même par rapport à d'autres pays en Europe.
Oui, la consommation française de pesticides est très élevée, contrairement à ce que prévoyait le plan Ecophyto créé en 2008. Elle n'a pas diminué. Ça
Donc en 2008, il y avait un plan qui nous disait qu'on s'engage vers une diminution.
diminution de moitié, en fait, au lieu
D'accord.
de diminuer de moitié en 10 ans, on a plutôt augmenté d'une dizaine de pourcents, en gros.
Et c'était un
Et,
plan du gouvernement français?
Oui, c'est un plan issu du Grenelle de l'environnement, mais qui était un plan d'engagement volontaire auquel finalement la FNSEA n'a jamais adhéré. Ils ont fait un peu semblant de jouer le jeu tout en traînant les savates, comme on dit par chez moi. Donc en fait, ça n'a pas fonctionné. Et donc,
Est-ce qu'il y a eu
on est dans
d'autres
une
annonces
situation.
depuis après le Grenelle?
C'est-à-dire qu'il y a eu ce plan Ecophyto pour la réduction des pesticides, mais il y a eu plusieurs versions de ce plan. Il y a eu un Ecophyto 2018, il y a un Ecophyto 2, il y a eu un Ecophyto 2+. Bientôt, la première ministre va nous sortir une nouvelle version du plan. Mais si on ne met pas quelques obligations à la profession avec des objectifs de réduction projetée dans le temps obligatoire et puis un système de bonus-malus qui pousse un peu les plus réticents à réformer leurs pratiques, il ne se passera jamais rien, si vous voulez.
Parce qu'aujourd'hui,
Parce
tous
qu'on
ces
ne peut
plans ne
pas.
sont que sur du volontariat, alors. Enfin, c'est que
Sur du
des
volontariat,
engagements ou des.
voilà.
Il n'y a pas de donnant-donnant.
C'est ça, il n'y a pas de contraintes.
D'accord.
Effectivement, pour l'instant, ça ne produit pas de résultats. Et donc, ça veut dire que la méthode n'est pas bonne. Si vous voulez, la méthode d'engagement volontaire, pourquoi pas? Mais si ça fonctionnait, on pourrait dire bravo, sauf que l'expérience nous montre que ça ne fonctionne pas. Donc, il faudra quand même donner un peu plus de contraintes, et puis en projetant dans le temps les objectifs qu'il faudrait atteindre avec un certain niveau de contraintes pour que les personnes qui refusent le changement, finalement, se heurtent à la nécessité d'évoluer dans les systèmes. Il ne s'agit pas d'aller exercer une pression terroriste sur les agriculteurs. Hein. Il s'agit de dire, voilà le plan, voilà l'agriculture dans 20 ans, voilà la trajectoire pour y arriver. Maintenant, il y a des obligations de résultat. Ce n'est pas un gros mot, hein, puisqu'on est dans un secteur qui bénéficie d'énormément de financement public. Donc, on peut demander des choses en contrepartie. Voilà les aides techniques qu'on va vous apporter. Mm-hmm. Parce qu'en fait, pour arriver à ce niveau de performance qui est attendu, c'est-à-dire division par deux du niveau d'utilisation de pesticides, on ne peut pas y arriver si on ne change pas les systèmes de production. Parce que ça ne marche pas. Les systèmes de production intensifs sont faits pour faire beaucoup de rendements avec des variétés qui sont sélectionnées pour faire ce rendement. Il y a beaucoup d'engrais. Ça fait des systèmes fragiles qui nécessitent des fongicides, des insecticides, etc. En fait, il faut changer les systèmes de production. Ça veut dire allonger les rotations, faire de l'agronomie, changer les dates de semis, la densité de semis en grande culture, etc. Il y a changer la fertilisation, etc. Donc derrière, il faut aider à la transition, changement de système, et parallèlement augmenter les surfaces en bio, hein, de manière significative et aller au-delà des. Alors, on a déjà.
Vous parlez de bio, et il y a plein de termes. Parce que si je fais une parallèle un peu avec le climat, où effectivement on peut dire qu'on a gagné la bataille du public aussi, où tout le monde est bien conscient qu'on est dans un dérèglement climatique extrême et qu'on est dedans. Après, l'adversaire politique nous sert un langage, une nouvelle langue qui justement fait un greenwashing et nous fait croire qu'on agit sur le climat alors qu'on n'agit pas. Et à vous entendre, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec ces. Dans le domaine des pesticides, on entend le zéro phyto, le H haute valeur environnementale, HVE, ces labels qui sortent un petit peu partout. On entend que la bio est en danger et qu'il y a plusieurs labels qui concourent et le gouvernement parfois soutient, semble-t-il, des choses qui soient plus dans une méthode d'engagement volontaire. Est-ce que du coup, vous pouvez nous redire un petit peu sur ces éléments quand vous parlez de pesticides, ça englobe quoi, comment s'y retrouver et comment le consommateur peut se dire oh ben là je suis sûr que j'ai quelque chose dans mon assiette qui n'est pas plein de pesticides.
Ouais, alors déjà vous avez raison, il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe sur la question climatique où on est dans une période paradoxale sur les deux thématiques. On pourrait même ajouter la biodiversité, autre thématique importante. Et le constat est fait, il y a un consensus scientifique, mais les mesures qui sont mises en place ne sont pas du tout à la hauteur. Et ça crée une tension dans l'époque, et qui d'ailleurs, c'est ça qui crée.
On voit bien.
Notamment chez les plus jeunes qui se disent mais c'est quoi ce monde de fou dans lequel on arrive, où on nous dit il y a une catastrophe qui se prépare, et de l'autre côté, on ne met pas du tout ce qu'il faut en œuvre pour éviter la cata. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours la tentation de faire du greenwashing plutôt que mettre en place les actions réellement nécessaires. Pour le climat, on voit bien, l'État français était condamné pour inaction, donc ça plaide.
Mais là, on vient de voir aussi une décision de justice importante au niveau de la Cour de justice européenne sur l'épisode récent des néo, dont je vous laisserai
le. Néonicotinoïdes, en fait, qu'est-ce qu'a fait la Cour européenne de justice? Elle a dit le droit, elle a rappelé simplement. Les États à une bonne lecture de la réglementation en vigueur, qui n'est pas suffisante actuellement pour aller au niveau européen réduire l'usage des pesticides, parce qu'il y a une directive cadre sur les pesticides qui ne prévoit pas d'objectifs chiffrés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions au niveau européen, parce que la Commission européenne propose aussi un nouveau texte pour remplacer cette directive qui deviendrait un règlement sur l'utilisation des pesticides, qui prévoit aussi une réduction de moitié de l'usage des pesticides dans tous les pays européens, au cours des 10 prochaines années. Ce qui veut dire qu'on a maintenant l'Europe qui propose ça. Mais le problème, c'est que la quasi-totalité des pays européens combattent cette proposition de texte de la Commission européenne en disant « mais on ne peut pas, ce n'est pas possible, économie, il va y avoir des
familles. » Donc on a un Parlement qui est plutôt pro-directive,
Le Parlement européen est plutôt pas mal orienté, mais avec des différences, parce que il y a quand même des pays où il y a peu de parlementaires intéressés pour soutenir les questions écologiques. Et finalement, notre meilleur allié aujourd'hui, c'est la Commission européenne. Alors, quand je m'entends dire ça, il y a quelques années, j'aurais pas dit ça, parce que c'est quand même pas très progressiste. Mais aujourd'hui, les États membres sont tellement frileux sur les questions environnementales. Il y a aussi la guerre en Ukraine et puis les problèmes économiques qui arrivent derrière, qui font qu'il y a une tendance au repli sur ces questions-là de beaucoup d'États. On l'a vu d'ailleurs aussi de la part de la France, que la puissance qui est aujourd'hui motrice sur ces questions-là en Europe, c'est la Commission européenne à travers ce qu'on appelait le Green Deal, hein, le pacte vert, qui est un truc qui se décline normalement dans l'ensemble des activités. Et pour la question des pesticides, ben justement, il y avait cette proposition de règlement pour l'utilisation des pesticides qui a un objectif de réduction de l'utilisation et des risques de moitié en 10 ans. Et c'est un objectif qui pour l'atteindre, nécessite de changer les pratiques quand même de manière importante. Là, pour le coup, si on veut atteindre ces objectifs-là, ce n'est pas en bricolant à la marche qu'on y arrive. Ça implique des changements de système. Ça veut dire qu'il faut augmenter, bien sûr, les surfaces en agriculture biologique où on utilise plus de pesticides de synthèse, mais pour réduire sur l'ensemble de l'agriculture 50%, il ne suffit pas d'avoir 10% ou même 15 ou 20% de l'agriculture bio. Il faut que tout le monde, tous les autres agriculteurs changent également leurs pratiques. Et c'est ça l'intérêt, c'est de mettre tout le monde à bord.
C'est aussi une interconnexion entre les différents pays, quoi.
Oui, et puis l'intérêt, c'est d'avoir effectivement une mesure communautaire, parce que en France, face aux demandes des Cofito et qui demandent de réduire de 50% les pesticides, qu'est-ce que dit les FNSEA? C'est dire, ah ben nous, on voudrait bien. Je ne suis pas sûr qu'ils le pensent vraiment, mais fermez la parenthèse. Mais il y a distorsion de concurrence avec nos voisins et collègues européens. Et ben là, justement, la proposition de la Commission européenne annulerait cette distorsion de concurrence entre pays européens, parce que tout le monde aurait le même objectif. Mais c'est là qu'on voit que les propos de la FNSEA ne sont pas sincères, puisque normalement, ils devraient soutenir ce projet. Or, ils le combattent aussi. Donc, on voit bien que...
Et donc on voit effectivement qu'il y a encore je parlais tout à l'heure de lobbying et de poids du syndicat majoritaire depuis la fin des années, la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait on voit que c'est encore bien vécu aujourd'hui. On va se faire une petite pause musicale et puis on reprend ensuite en prenant la parole aussi avec nos amis de Nous voulons des coquelicots.
J'assaisonne moi-même mes plats aux pesticides. Les pesticides, c'est tellement meilleur. J'assaisonne moi-même mes plats aux pesticides. Les pesticides, c'est le bonheur. Fini le curry, fini la coriandre. Bien sûr, ceci peut vous surprendre, mais je préfère quand c'est agrochimique. Et je rajoute tout un tas de produits magiques, néonicotinoïdes, l'imidaclopride, le glutianidine, le sulfoxaflore, l'organophosphate, le benzimidiazole, le dithiocarbamate. J'adore. Venez goûter mes petits plats aux pesticides. Les pesticides, c'est tellement meilleur. Venez goûter mes petits plats aux pesticides. Les pesticides, c'est le bonheur. Y'a pas à dire, c'est excellent. Pitié, plus de flan caramel, sans anticoagulant. On est les champions de la pâtisserie en France. Et on compense l'excès de levure par régulateur de croissance.
Néonicotinoïdes, l'imidaclopride, le glutianidine, le sulfoxaflore, l'organophosphate, le benzimidiazole, le dithiocarbamate. J'adore! J'adore!
Dans les paupiètes, huile minérale, hydrocarbone ultra chloré, et du bleu de bouillie bordelaise pour décorer. Néonicotinoïde, l'imidaclopride, le clothianidine, le sulfoxaflore, l'organophosphate, le benzimidiazole, le dithiocarbamate. J'adore! Ah oui, j'adore!
Et c'était Assaisonné aux pesticides par le groupe Obscur Feuillage. Vous êtes toujours sur Radio Calade, l'émission d'Alternativa Alors on change, consacrée ce soir aux pesticides. Et on est avec François Veyrette qui est au téléphone avec nous et en studio avec Michel et Mathieu de Nous voulons des coquelicots. Avant de passer sur la question de l'enquête ici qui a eu lieu dans le Beaujolais, sur laquelle on va prendre le temps quand même de revenir, je voudrais juste clôturer le temps avec notre porte-parole de Génération Future, François Veyrette, en vous posant une question. On en parlait juste avant la pause. Sur la nécessité finalement d'un changement systémique et notamment sur les pratiques. Et ça m'a fait penser à cette question sur la gestion de l'eau en agriculture, sujet on ne peut plus brûlant en ce moment avec la catastrophe humaine qui s'est jouée le week-end dernier. Il y a toujours 3 personnes qui sont en urgence vitale suite aux manifestations de Sainte-Soline qui visaient à dénoncer le système de ces méga bassines qui, je le dis peut-être en résumé, mais vous pouvez peut-être en quelques mots nous faire un retour là-dessus, François, qui sont des systèmes finalement où l'eau qui vient à être de plus en plus rare est finalement au service d'un système agricole qui est encore basé sur l'agro-industrie, sur du coup des rendements terribles et sur de l'exportation. Et non pas dans une agriculture que j'ai l'impression qui est celle que vous défendez à Génération Future, qui est plutôt basée sur du zéro pesticide et du local.
Oui, complètement. C'est un symptôme, en fait, ces méga-bassines, d'une agriculture totalement dépassée. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui ? On devrait, en prenant en compte le réchauffement climatique, concevoir des systèmes agronomiques pour les 20 ou 30 prochaines années, au moins. Et se dire, voilà, demain, ça, dans ma région, je pourrais le cultiver, ça, je ne pourrais pas le cultiver, parce que le maïs dans des régions où il va faire très chaud, les sols ne sont pas profonds, où il y a des problèmes d'accès à l'eau, ce n'est pas une bonne idée de continuer à en faire.
Et ces projections, on les a aujourd'hui, en plus.
Oui, mais ça, les agronomes savent faire. D'ailleurs, le travail de l'INRA que vous avez cité tout à l'heure, eux, ils sont déjà dans cette perspective-là. C'est-à-dire qu'ils font un travail intelligent. Ils prennent tous les critères en compte et disent, voilà, demain, ce qu'on peut cultiver, voilà les rotations qu'on peut faire. Si on veut avoir des systèmes qui soient résilients, il faut beaucoup de cultures dans la rotation pour éviter que les mêmes cultures reviennent très fréquemment au même endroit et que les maladies et les prédateurs s'installent. Et à partir de ça, on essaie de les mettre en œuvre de la manière les plus économes possible pour tout l'ensemble des ressources. Et ça, c'est une agriculture intelligente. Donc aujourd'hui, investir dans des méga-bassines pour aller irriguer du maïs dans des coins où les tons sont sur l'eau, des sols peu profonds, drainants, etc. Enfin, c'est vraiment un super mauvais investissement. Enfin, même pour uniquement pour les critères
économiquement, oui.
Très mauvais. C'est-à-dire que c'est pas du tout. On n'investit pas dans l'agriculture de demain. Là, on remet de l'argent sur la table pour essayer de faire durer un peu plus longtemps l'agriculture d'hier. Et ça, c'est pas du tout sérieux. Si on a besoin de faire de telles retenues d'eau pour faire du maïs dans ces coins-là, peut-être que ce n'est pas dans ces coins-là qu'il faut faire du maïs. On avait les mêmes problèmes avec les betteraves et les pucerons. On s'est aperçu que finalement, au sud du bassin parisien, il y avait beaucoup plus de pucerons vecteurs de la jaunisse que dans le nord de la France. Et peut-être qu'il fallait se dire qu'il y a peut-être des régions où il faut arrêter de faire de la betterave et puis on va mettre la production plutôt dans le nord où il y a moins de pression. L'adaptation des cultures avec les territoires et les terroirs, ça fait partie de l'agronomie. Alors que là, il y a des systèmes en place, on essaie de les faire perdurer à coups de millions et à coups de projets qui sont terribles parce qu'ils vont mobiliser des quantités d'eau énormes au détriment des autres usages. Donc en fait, c'est avant les problèmes que vous avez cités, de violence, de répression, de ce que vous voulez. Ce problème-là, c'est un symptôme d'une agriculture inintelligente, en fait, qui n'est pas du tout adaptée au monde qui change et au monde de demain. Aujourd'hui, on ne doit pas mettre en place et investir dans des systèmes courte vue. On doit développer et investir dans des systèmes pour, je vous dis, les 20 ou les 40 prochaines années, anticiper les cultures qu'on va mettre en place pour ces dizaines d'années à venir, et donc investir en conséquence. Et puis investir aussi en pensant la succession des cultures, les rotations des cultures dans leur ensemble, créer les marchés aussi, parce qu'introduire de nouvelles cultures, ça veut dire qu'il faut travailler avec ce qu'on appelle l'aval, trouver des nouveaux débouchés pour les nouvelles cultures qui vont arriver dans la rotation, dans une agroécologie intelligente. Donc tout ça, c'est un chantier énorme.
Du coup, voilà, on voit que le chantier est vaste et du coup, ici, sur le Beaujolais, ces questions-là, elles résonnent beaucoup avec nous parce qu'on est effectivement aussi dans une région où il y a un peu, enfin, où il y a fortement une monoculture. Chez nous, c'est la vigne. Bonsoir Mathieu et Michel, vous êtes ici en studio avec nous et vous représentez l'association Nous Voulons des Coquelicots. Quelques mots sur l'association ?
Oui, alors nous, c'est Nous Voulons des Coquelicots Beaujolais Val-de-Saône. On a souhaité continuer le mouvement national initié par Fabrice Nicolino et François Bayrette, d'ailleurs, en septembre 2018. C'était un mouvement qui lançait un appel pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse à terme en France. Voilà, donc le but, c'était de se réunir sur les places de villages, devant les préfectures, mairies, églises, une fois par mois, et de récolter des signatures physiques. Donc, on faisait signer les gens, on discutait avec eux de la problématique des pesticides, et après, 2 ans après, donc, ces signatures ont été amenées au ministère de la Transition écologique, donc en septembre 2020, c'était Barbara Pompili à l'époque, et elle a signé elle-même d'ailleurs cet appel. Voilà, donc nous, on a souhaité continuer tout ça, parce que dans le coin, il y a fort à faire dans le Beaujolais.
Effectivement, voilà. Et on a souvent travaillé ensemble avec Alternativa, et donc vous avez mené cette enquête entre 2021-22,
oui.
Et elle consistait en quoi ? Comment vous y êtes pris et quel était l'objectif de cette enquête ?
Alors, nous, on est parti d'un constat très simple, que n'importe qui se promène dans le Beaujolais, même sans être militant écologiste, peut faire. C'est qu'il y a de nombreuses écoles dans le bassin viticole, dans les villages du bassin viticole, qui sont cernées par les vignes. Et qui sont cernés par des vignes majoritairement cultivées en conventionnel, c'est-à-dire utilisatrices de pesticides, de synthèse. Partant de là, on a fait un peu une enquête pour voir s'il y avait ici et là des protocoles de protection quand même des enfants scolarisés dans ces écoles. Et notre constat a été assez édifiant, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, ben non, à part quelques bricolages locaux difficiles à faire durer, ben il n'y a rien. Il n'y a rien, et en plus, l'inspection académique ne s'occupe absolument pas de ce problème. Alors que nous, on a rencontré des gens, des directeurs d'école, des enseignants qui sont conscients du problème, qui aimeraient au minimum protéger les enfants dont ils ont la charge. Par exemple, quand ils constatent que les enfants sont en récréation et qu'on voit à quelques dizaines de mètres de la cour un tracteur en train d'épandre ses produits, ils aimeraient pouvoir agir. Mais tout ça est très compliqué parce qu'il y a dans le Beaujolais, allez, osons le mot, une omerta autour de ce problème. C'est très difficile d'en parler, encore maintenant, même si ça évolue un petit peu. Voilà, donc nous, partant de ce constat, on a eu envie d'en savoir plus et de pouvoir s'appuyer sur des chiffres. Donc on a fait une première action de notre propre initiative. On a fait une analyse de poussière, poussière qui ont été prélevées dans une école maternelle qui est, elle, très proche des vignes où les premiers ceps sont à quelques mètres de la cour de récréation. Voilà, bon, et on a envoyé cette analyse de poussière à un laboratoire spécialisé. Donc là, il a trouvé un cocktail de 9 molécules retrouvées, un cocktail essentiellement de fongicides, bon, pour aller très vite, tébuconazole, reprotoxique, dimétomorphe, perturbateur endocrinien, et aussi du métallaxyl, qui est en petite quantité, qui a été retrouvé en petite quantité, mais qui est quand même un produit interdit depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Et puis, donc, la deuxième chose, ça a été notre participation à la campagne de Génération Future. Donc là, avec l'installation de 2 capteurs passifs aériens, donc c'est des capteurs qui piègent les molécules. Et là aussi, le résultat est sans
appel. Donc ces capteurs
ont
été positionnés dans le Beaujolais pendant un certain nombre, pendant une durée certaine. Et là, c'était en collaboration avec Génération Future.
Voilà.
Et vous pouvez nous préciser un petit peu combien de temps et où est-ce qu'ils étaient ?
Oui, alors ils ont été installés sur 3 mois, entre mai et juillet, donc dans 2 villages du Beaujolais. Il y a des gens qui nous ont aidés à trouver des endroits adéquats. Donc il y en a un qui a été installé, enfin les deux ont été installés chez des riverains. Le premier chez une famille de parents d'élèves, en fait, dont les enfants étaient scolarisés dans l'école toute proche. Donc là, le domicile et l'école sont très proches des vignes. Mmh. Et puis le deuxième, chez un riverain, un petit peu éloigné d'un village. Voilà, aussi proche des vignes, mais avec une configuration légèrement différente. Voilà. Là, donc, les résultats sont assez édifiants au niveau fongicide retrouvé. C'est essentiellement le folpel, mais dans des quantités très importantes qui a été retrouvée. Donc, c'est des produits qui sont identifiés comme préoccupants. Nous, on part d'un constat simple. Des produits préoccupants, faut s'en occuper, quoi. Voilà.
Et donc là, l'étude, elle montre... scientifiquement, il y a ces produits, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur la question statistique, c'est sur deux sites. Est-ce qu'il y a une généralisation qui est possible de faire? Prudents aussi dans ce que... Je ne sais pas.
Alors nous, notre volonté, c'était de montrer avant tout qu'il y avait un problème près d'une école. Donc mm-hmm. on a trouvé un site avec un capteur installé à 10 mètres d'une école. Et la vigne est évidemment toute proche d'une école. L'autre capteur, c'était pour avoir un petit recul un peu plus important pour montrer que les ZNT, en fait, c'était de la foutaise, excusez-moi ce terme. Il était placé à 25 mètres d'une vigne chez un particulier à côté de son potager. Voilà. Ce qui a été assez énorme. Je me souviens d'ailleurs de François qui nous a appelé en septembre dernier en disant, je le cite, dis donc, c'est balèze dans votre région, quoi. Notamment sur 2 produits qui sont des fongicides, le mm-hmm. folpène et la siroxamine, je pense, je ne me trompe pas. Donc il y avait un pic énorme sur un des capteurs, ce qui correspondait à peu près à 66% des substances retrouvées sur cette période. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 relevés d'avril à juin 2022, donc à peu près un mois et demi. Il y a une mousse dans les capteurs qui piège les substances, et après on envoie au labo spécialisé. Et donc il y a quand même eu 26 substances trouvées, dont quelques-unes aussi interdites. Ça montre que la chimie reste dans le sol, c'est-à-dire que quand le viticulteur travaille, il y a des particules de poussière qui volent, et on peut trouver même des traces de lindane interdites depuis des années,
d'où la substance tout à l'heure. Oui.
Voilà, mais nous, ce qu'on voulait montrer avant tout, c'est que où qu'on se place, parce que finalement, on a été un peu par hasard, on se disait là, ça serait bien, où qu'on se place, on trouve ces substances problématiques à des doses importante, quoi. Et nous, c'est ça qu'on veut dire, le crier, même, parce que quand on parle d'enfants, de populations vulnérables, ça nous semble vraiment important de faire quelque chose, quoi. Mmh.
Et justement, ces résultats, donc, vous les avez rendus publics il y a quelques temps. Quelle a été la réception ici en local, à la fois au niveau de la presse locale et à la fois au niveau des élus ou des personnes responsables, des syndicats ou...
Alors, c'est Génération Future qui a publié les résultats, puisque D'accord. c'est la campagne de Génération Future qui s'appelle Pesticides, c'est dans l'air. Donc nous, on y a participé en tant que technicien sur le terrain. Et donc ça a été publié il y a un mois et demi à peu près, je crois. Donc une publication de plusieurs pages, une enquête très sérieuse avec aussi des résultats dans le Bordelais. Voilà, et nous, donc en fait, après, évidemment, on s'est servi de ces résultats pour les communiquer dans notre région, et notre deuxième étage de la fusée, en quelque sorte, c'était d'envoyer des courriers un peu partout, puisqu'on n'avait pas pu avoir l'inspectrice qui s'occupait de notre coin après un an et demi de sollicitation. Donc on a envoyé à 132 écoles directeurs, directrices d'école, parce qu'on s'est pris un kilomètre par rapport à une vigne. Voilà.
D'accord.
81 maires aussi, des communes concernées, des inspectrices, des députés. La prochaine étape, ça sera peut-être les parents d'élèves, puisqu'on a relativement peu de réponses. Mais bon, c'est avant tout informatif.
Informatif.
Oui, parce que aussi, on a voulu revenir à ça, parce que, aussi incroyable que cela puisse paraître, même la protection minimale, donc les ZNT, l'interdiction de traiter quand le vent dépasse 19 km/h, l'obligation, par exemple, quand on lui demande à l'agriculteur de donner le nom du produit qui était pendu, même ces règles de base ne sont pas connues. On s'est aperçu de ça, par exemple, les directeurs d'école, les enseignants ne les connaissent pas forcément. Donc, dans notre lettre, on a eu envie de rappeler ça à minima en disant que quand on souhaite agir, on peut au moins faire ça, c'est-à-dire exiger que ce qui existe soit respecté, parce que c'est loin d'être toujours le cas, même si c'est vrai. On nous le dit dans différentes rencontres, il y a des progrès probablement qui ont été faits depuis les années 70-80, mais il y a quand même des très mauvaises habitudes qui perdurent. Donc on a eu envie de commencer par ça, tout en rappelant, et nos chiffres, les chiffres d'analyse le montrent, que ces mesures à minima ne sont absolument pas
suffisantes,
absolument pas protectrices, puisque François en a parlé, il faudrait une zone de protection minimale de 150 mètres autour des habitations. Donc là, on en est très très loin, hein, puisqu'on est à 10 mètres pour la vigne. Mais c'est important que les gens qui ont la charge d'enfants sachent au moins ça. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, quand on constate un traitement qui n'est pas fait dans ces conditions, on peut intervenir, on peut faire remonter ça. Et c'est important de dire que le viticulteur peut être sanctionné s'il a une pratique comme ça qui n'est pas correcte. Quoi.
Et effectivement, chez nous, ça, on revient à la discussion qu'on avait avec François en début d'émission sur la nécessité de changement systémique. Et ça veut dire qu'il y a un véritable accompagnement à faire auprès des viticulteurs pour que les changements de pratique soient possibles et soient économiquement aussi viables quand on est aussi dans une période sur une région aujourd'hui où on sort d'une monoculture intense et effectivement, il va falloir passer à autre chose, on le sait bien.
Oui, alors nous, on rappelle tout le temps qu'on n'est évidemment pas contre les agriculteurs, les viticulteurs en l'occurrence ici. Ce qu'on souhaite chasser, ce ne sont pas les viticulteurs, ce sont les produits. La formule résume bien, c'est-à-dire que ces produits reculent, l'utilisation de ces produits recule à 150, 200 mètres des écoles, des lieux accueillant des personnes vulnérables, où il y a une loi. Nous, on pense que la loi, de toute façon, c'est la seule façon de faire évoluer réellement les choses. Dans l'histoire, on peut trouver beaucoup d'exemples. L'interdiction de la publicité sur le tabac, par exemple, s'il n'y avait pas eu une loi, on aurait encore aujourd'hui, des publicités sur le tabac. Il ne faut pas compter sur les fabricants pour prendre ces initiatives-là d'eux-mêmes.
Et ça, motive à effectivement retravailler avec Génération Future et avec vous pour l'accroissement de la visibilité de cette étude. Donc, je rappelle le titre, Pesticides, c'est dans l'air, qu'on mettra aussi en lien à cette émission. Merci beaucoup tous les trois pour toutes vos interventions. On est, comme souvent dans cette émission, court en temps. On aurait voulu pouvoir faire deux fois le sujet, mais on y reviendra, on y remettra le couvert là-dessus. On tient véritablement à ce que cette étude puisse avoir un peu plus de d'écho ici dans la région. Donc on essaiera vraiment de relayer tout ça sur le terrain et sur nos antennes et on aura le plaisir de vous recevoir, j'imagine, bientôt. Pour approfondir le sujet, vous pouvez évidemment retrouver tous les liens d'infos sur le site de l'émission de Calade. Encore merci à nos invités et bonne continuation dans vos travaux.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
exagéré, capitalisme tout puissant. Il suffisait d'en profiter, fallait agir au bon moment. Prendre de près dès qu'ils avaient dit, ça résiste à nos désherbants. Acheter tous nos produits et décupler votre rendement. Monsanto, on veut pas tes poireaux. Je ne veux plus tes aliments qui pourrissent mon environnement. Et Monsanto, ravage tes artichauts. Crois pas, les plantes qui en sortiront ne fructifieront pas de foi. Ils t'en vendront tous les ans, et même si tu n'en veux pas, tes pauvres terres en souffriront et plus rien d'autre n'y vivra. Monsanto, on veut pas tes poireaux. Je ne veux plus tes aliments qui pourrissent mon environnement. Et Monsanto, ravage tes artichauts.
Monsanto, ravale tes artichauts par le groupe Yes Future.
Calade 100.9.
Et c'est maintenant l'heure de notre chronique. Alors, il y a du nouveau sur la chronique dans notre émission Alors on change, puisque par alternance maintenant, nous aurons la chronique verte de Bernard, à laquelle vous êtes habitués, et nous aurons cette nouvelle chronique de Leslie et Daniel, deux alternatibiens partis au Guatemala, qui nous adressent leur chronique à deux voix, baptisée Co-inspiration. Elle viendra nous apporter un regard d'ailleurs, un regard un peu décalé par rapport au sujet de l'émission, et on va donc parler ce soir des pesticides au Guatemala.
Dani et Leslie, Co-inspiration.
Ah, c'est vraiment un plaisir cet après-midi. Un délicieux café, en face de notre lac secret au cœur du Guatemala. Et ce qui arrive est tout aussi bon. J'ai mis des grains de cacao dans les fours solaires. Avec les bananes qu'on a récoltées ce matin, nous ferons un smoothie de ouf.
Oui, quel café d'exception. Il s'appelle Justicia et vient d'un commerce équitable. La plante de café, originaire de l'Éthiopie et introduite à partir de la deuxième moitié du 19e siècle en Amérique centrale, a changé énormément la vie agricole locale. Ici, ces plantations occupent même les 80% du sol, c'est absurde. Il faudrait avoir tellement plus de variétés. L'histoire se répète avec l'avocat et le maïs. Ces aliments qui étaient autrefois sacrés pour les Mayas sont aujourd'hui victimes d'une surproduction massive, allant jusqu'à transformer la morphologie de toute la Mésoamérique.
L'appauvrissement du sol a accéléré avec la révolution verte, menée de front par les États-Unis. Elle commence sur le territoire mexicain, puis s'étend globalement. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Fondation Rockefeller finance des recherches pour augmenter la production agricole. L'objectif, trouver une solution à la faim mondiale.
Révolution verte, ça sonne cool.
Je la définirais dégradation verte. Ils ont proposé une formule agricole, vendant de nouveaux fertilisants et pesticides pour garantir la vitesse de développement des nouvelles graines transgéniques, remplaçant les anciennes endémiques, mélangeant même la génétique des porcs et poissons avec des tomates. Et tu sais quoi? La faim planétaire, elle n'a pas du tout disparu, à cause des gens qui, malgré leur estomac rempli, ont toujours envie de se régaler.
Ah, un système de permaculture planétaire serait beaucoup plus durable.
Mais pas assez rentable.
On dirait que la révolution verte est devenue un monopole vert, ou plutôt rouge, comme le sang des millions d'innocents qui ont tout perdu à cause des industries agrochimiques.
Une guerre silencieuse.
Et est-ce que tu sais d'ailleurs que l'industrie de la banane a elle aussi fait couler beaucoup de sang ici?
Pourquoi? Même si elle pousse depuis toujours en Amérique?
Eh oui, puisqu'elle est originaire d'Asie. Je vais plomber l'ambiance, mais je crois que c'est important de raconter cette histoire. Tu connais The United Fruits Company?
Ça me dit quelque chose. Tu peux me rafraîchir la mémoire?
Oui, tu sais, c'est une entreprise bananière des États-Unis qui a vu le jour en 1899. Trouvant le climat propice, elle s'est installée un peu partout en Amérique centrale, possédant au fil des années une très grande partie des terres agricoles et même la majorité des chemins de fer de ces régions. Elle est devenue le symbole de l'impérialisme gringo.
Ça y est, je me souviens. J'avais lu un article à ce sujet sur la guérilla. Le premier président de Guatemala, élu de manière démocratique en 1944, décide d'exproprier et redistribuer une partie des terres volées par United Fruit Company aux paysans.
Surtout que pour les Mayas, travailler la terre a toujours signifié beaucoup plus qu'un travail ou une passion.
L'entreprise, en quête, se plante aux États-Unis. Mais, tadam, un coup d'état organisé par la CIA, qui à l'époque actionnaire chez l'entreprise. C'est le début d'un demi-siècle tragique au Guatemala. Repúblicas Bananeras.
Waouh, l'implantation de United Fruits Company constitue une rupture dans l'histoire des Amériques. Cela a changé du tout au tout la vie des Guatémaltèques, qui se retrouvent dépendants des États-Unis et de leur compagnie. En 89, l'entreprise devient Chiquita Fruits Company, afin de cacher son identité homicide.
Banana Chiquita.
Ah, c'est une entreprise riche en scandales. Hein. Savais-tu qu'elle avait utilisé également des pesticides très dangereux, tels que le DBCP? Même après son interdiction, les ouvriers agricoles n'avaient en plus de ça aucune protection et beaucoup ont été empoisonnés.
Quelle histoire! Sans connaître le passé, on ne changera pas le présent. Tu sais que l'histoire des pesticides est très ancienne? Romains et Grecs en faisaient usage, et même l'Empire chinois.
Laisse-moi deviner. Arsenic?
Oui.
Nicotine?
Oui.
Et kérosène?
Bravo! Chaque époque, ses substances préférées.
Quand même. Heureusement qu'en Europe, beaucoup de pesticides sont interdits depuis quelques années.
Tu fais pas si bien dire. Dis-moi un synonyme d'Europe.
Le vieux continent?
Cette fois, t'as pas deviné. C'est la vieille hypocrite.
Et dis-moi pour quelle raison?
Tous ces produits phytosanitaires interdits en Europe sont toujours conçus par ces industries agrochimiques. Ils les vendent simplement en dehors de celles-ci. Les clients internationaux ont augmenté, notamment ceux du tiers-monde, forçant ces citoyens à être dépendants des substances toxiques.
Et en plus, chez nous, on importe beaucoup de produits de ces pays-là.
Oui, un boomerang qui assomme notre santé, mais pas les comptes bancaires de certaines.
Quand même, j'ai lu que la loi Egalim 2022 a réduit les exportations de pesticides interdits depuis la France pour réduire ces vents frauduleux.
C'est vrai, c'est un des uniques pays d'Europe à l'avoir fait. Ça n'empêche pas que les Gaulois occupent encore la 5e position dans les classements d'exportation des pesticides interdits.
Et toi qui nous écoutes, tu connais vraiment l'histoire de ce que tu manges?
Eh bien, merci Leslie et Daniel pour cette ouverture vers le monde. C'est éclairant effectivement sur les effets délétères d'une mondialisation lucrative et assassine. On a hâte de vous entendre très bientôt. On vous donne rendez-vous pour dans 2 mois, en alternance donc avec la chronique verte de Bernard. Au niveau des actualités, on a très peu de temps pour vous faire part de l'actu du moment. L'actu du moment, cette semaine, ce sera jeudi, une grosse journée d'actu, une grosse journée de manifestation encore contre la réforme des retraites à Villefranche, au Promenoir à 16h30. Et puis le soir, rendez-vous à 20h15 pour poursuivre ensemble avec la projection d'un film qui s'appelle « Des cailloux dans la chaussure » et la rencontre avec les membres du collectif Kikuri. On vous donne aussi rendez-vous rendez-vous très bientôt pour nous retrouver et pour passer à l'action avec nous, parce qu'avec de toutes ces nouvelles et de toute cette colère, il faut la transformer en action, parce qu'on veut changer le climat et changer le système et pas le climat. Merci à toute l'équipe de groupe de travail de Radio de Alternativa. Ce soir, nos deux préparateurs d'émission, c'était les deux Bernard, avec au montage le truculent montage sonore de JC. Il y avait aussi donc Daniel et Leslie pour la chronique co-inspiration du Guatemala. Un grand merci à Alice qui était en studio ce soir avec nous à la technique. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission qui traitera de notre rapport aux déchets. Alors, poids dans la société de consommation et à leur traitement en Beaujolais. Et d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que celle passée sur le site de Radio Calade. À très bientôt.
Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de change, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Calade.